Accent d'Europe, Laurent Berthaud.
Bonjour à tous, les électeurs turcs de nouveau dans l'isoloir ce week-end pour des législatives anticipées. Mais depuis le dernier scrutin en juin, le climat s'est sérieusement dégradé. Les combats ont repris avec le PKK dans le sud-est du pays et deux attentats suicides attribués au groupe État islamique ont fait plus de 130 morts. L'AKP du président Erdogan tente de récupérer sa majorité absolue, tandis que le HDP de gauche, pro-kurde, espère confirmer son succès inédit des élections de juin. À 48 heures du vote, ambiance et enjeu avec ce reportage d'Anand Lauer à Istanbul.
Ils l'attendent depuis plus d'une heure. Un millier de jeunes électeurs dans une salle de spectacle du centre d'Istanbul agitent le drapeau vert et mauve du HDP, le Parti démocratique des peuples. Selo, notre premier ministre, lance-t-il à l'homme qu'ils attendent, Selahattin Demirtas, co-président du HDP. Celui qui, aux législatives de juin, a fait de cette jeune formation le quatrième parti de Turquie avec 13% des suffrages. Lorsqu'il entre enfin dans la salle, Selahattin Demirtas reçoit un accueil de rockstar. Déterminé pour la paix, c'est le slogan de la chanson, le slogan de leur campagne. Une campagne endeuillée par la reprise des affrontements entre l'État et le PKK kurde, mais aussi par deux attentats attribués à Daesh. Celui d'Ankara, le 10 octobre, a tué 102 personnes. Il a poussé le HDP à annuler tous ses meetings, mais aussi à prendre des mesures drastiques. Pour entrer ce jour-là dans la salle de spectacle, il a fallu passer 4 contrôles de sécurité. Elin Satılmış, une jeune kurde voilée, voulait être là coûte que coûte.
On sent que cela devient de plus en plus dangereux, donc cela me rassure que le parti nous contrôle 4 fois de suite. Le HDP, c'est nous, c'est notre culture. Il est né comme un parti de l'Est, un parti des Kurdes, et il devient le parti de toute la Turquie. Je vote HDP parce que je vote pour la paix et l'égalité dans ce pays.
Emre, lui, ne votera pas pour ce parti le 1er novembre. Mais le jeune homme de 21 ans s'intéresse tout de même au discours du HDP et de son leader. C'est pour cela qu'il est venu et il a quelques questions à poser.
Je me demande ce que veulent vraiment les Kurdes du HDP. Veulent-ils vraiment un État propre? Que signifie pour eux la paix? Moi aussi, je suis kurde et je vois bien que le HDP représente une grande partie des Kurdes. Et veulent-ils réellement la paix? Tant que je n'en serai pas sûr, je ne pense pas voter pour eux.
Changement d'ambiance, la place de Yenikapı pour un meeting de l'AKP, le parti du Premier ministre Ahmet Davutoğlu. Des centaines de policiers et 150 détecteurs de métaux encadrent l'événement. Lâchés de ballons, 16 écrans géants, un drone pour filmer la foule, les moyens sont tout autres. Un hélicoptère survole la place qui peine à se remplir. On est loin de l'enthousiasme des meetings de l'AKP il y a encore 2 ans. L'homme du jour, Ahmet Davutoğlu, entame son discours en ces termes religieux. La sécurité, la stabilité, la lutte contre le terrorisme, toute la campagne de l'AKP se focalise sur ces thèmes. Le message semble être passé, en tout cas chez Rabia Gökçel, une jeune militante.
Notre problème numéro 1, c'est le terrorisme et ceux qui l'instrumentalisent, en Turquie et depuis l'étranger. Nous avons besoin d'unité. La seule solution, c'est le retour d'un gouvernement AKP fort.
Si les Turcs votent à nouveau dimanche, c'est qu'aucune majorité stable n'est sortie des élections législatives de juin. L'AKP, qui récoltait encore près de 50% des suffrages en 2011, a obtenu à peine plus de 40%. Sonné par cet échec, l'AKP n'a pas pu, ou n'a pas voulu, former une coalition avec l'un de ses adversaires politiques. Osman Karahan, un partisan de la première heure, a mis tous ses espoirs dans le vote de dimanche.
Le vote de juin était un accident de parcours. Cette nouvelle élection nous offre une seconde chance. Avec l'aide de Dieu, nous, le peuple turc, nous allons saisir cette chance. Ce vote est crucial pour nous.
Ce dimanche 1er novembre, l'AKP tentera donc de récupérer la majorité absolue qu'il détenait depuis 13 ans, avant la percée inédite du HDP dans l'Est et le Sud-Est à majorité kurde. Là où des combats violents ont repris cet été avec le PKK faisant plusieurs centaines de morts. Mourad Gezici dirige un institut de sondage. Selon lui, l'AKP espère profiter de ce climat violent.
L'AKP sait qu'il ne récupérera pas les électeurs passés au HDP. Leur seule réserve de voix, ce sont les nationalistes. D'où ce discours guerrier, sécuritaire, d'où ces meetings contre le terrorisme avec des drapeaux turcs partout. L'AKP a besoin de quelques points pour retrouver sa majorité. Il tente le tout pour le tout.
Mais d'après les enquêtes de l'Institut Gezici et de presque tous les autres, l'AKP n'a quasiment aucune chance de revenir seul au pouvoir après l'élection de dimanche. Dans ce cas, deux solutions, un gouvernement de coalition ou de nouvelles élections au printemps. Une option que n'écarte pas le politologue à Könüver.
L'AKP a perdu sa majorité de peu. S'ils augmentent leur score d'un point ou d'un point et demi, ils voudront sans doute confirmer cette tendance avec un nouveau vote. Mais si l'AKP fait moins de 40%, alors ils devront se résoudre à une coalition.
Mourad Gezici plaide aussi pour cette solution.
2015 a été une année perdue. C'est par la voie du compromis politique que notre économie pourra se redresser. Mais aussi, et surtout, que nous retrouvons un peu de sérénité et de paix sociale.
Reste à savoir quelle sera l'attitude du président de la République, Recep Tayyip Erdogan, en cas de nouvel échec du parti qu'il a fondé. Une chose est sûre, le régime présidentiel fort dont il rêvait il y a un an ne semble plus à sa portée.
Le reportage d'Anne Andlauer que nous retrouvons tout de suite à Istanbul. Bonjour Anne.
Bonjour Laurent, bonjour à tous.
Alors les derniers jours de la campagne ont été marqués par un nouveau coup de force du pouvoir contre des médias d'opposition mercredi. Une énième atteinte à la liberté de la presse, Anne.
En effet, une atteinte d'autant plus spectaculaire qu'elle s'est déroulée en direct à la télévision sous le regard médusé des téléspectateurs des chaînes Canal Turc et Bugün TV. Escorté par des policiers, les nouveaux administrateurs de ces télévisions ont fait irruption à l'écran pour prendre le contrôle des programmes. Au même moment, sous les fenêtres, la police repoussait des salariés, des manifestants et des journalistes à coups de canons à eau, de gaz lacrymogène et de garde à vue. Cette intervention musclée intervient deux jours après qu'un juge a décidé de mettre sous tutelle la holding Kozai Pek, à laquelle appartiennent 22 sociétés, dont ces chaînes de télévision, mais aussi deux journaux et une radio. Une décision expéditive alors qu'une enquête est en cours. La justice, c'est-à-dire le gouvernement et le président Erdogan, soupçonnent ce groupe de financer le réseau de Fethullah Gülen, un imam exilé aux États-Unis que le président accuse d'avoir bâti un État parallèle. La mise sous tutelle de ces médias n'étonne donc personne, mais elle choque dans un pays où la liberté de la presse et la liberté d'expression n'ont cessé de se dégrader. Cette semaine, la justice a ainsi engagé des poursuites pour insulte au président Erdogan contre deux enfants de 12 et 13 ans accusés d'avoir déchiré une affiche à son effigie.
Alors Anne, retour à votre reportage dans lequel vous décrivez un climat délétère à l'approche des élections avec le risque d'attentats et la reprise des affrontements avec le PKK. Qu'en est-il ce vendredi à 48 heures du scrutin?
Pour ce qui est du risque d'attentats et en particulier d'attaques suicides du groupe État islamique, il est plus élevé que jamais, même si l'organisation djihadiste n'a revendiqué aucune attaque sur le sol turc. Elle est, aux yeux des autorités, le suspect numéro un de trois attentats majeurs en cinq mois, à Diyarbakır en juin, à Suruç en juillet et à Ankara en octobre. À chaque fois, l'État a été accusé de négligence coupable car les auteurs étaient connus comme membres de Daesh et censés être activement recherchés. Ces dernières semaines, ces derniers jours en particulier, la police a donc multiplié les opérations d'ampleur contre les cellules djihadistes, d'Istanbul à Diyarbakır, arrêtant des dizaines de personnes sous l'œil des caméras. Elle diffuse aussi les photos de kamikazes présumés en appelant la population à signaler toute personne suspecte, une façon de dire « nous prenons la menace au sérieux ».
Alors Anne, qu'en est-il des combats avec le PKK, avec lequel la guerre a repris en juillet après plus de deux ans de cessez-le-feu?
On observe ces dernières semaines une relative accalmie. L'armée et la police continuent de mener des opérations contre des caches du PKK, mais les affrontements sont moins fréquents qu'en juillet, en août ou en septembre. Ces trois mois avaient été particulièrement meurtriers dans les deux camps et parmi les civils. L'accalmie récente tient surtout au fait que le PKK a annoncé le 10 octobre la suspension de ses attaques jusqu'aux élections du 1er novembre. Le groupe armé kurde semble plus ou moins tenir cette ligne, ce qui ne préjuge en rien de la sécurité du vote de dimanche, en particulier dans les régions de l'Est et du Sud-Est.
Merci Anne Andlauer, à très bientôt sur Accent d'Europe.
À bientôt Laurent.
Une pomme par jour éloigne le médecin, affirme le dicton populaire. Encore faut-il savoir de quelle pomme on parle, car croquer dans un fruit gavé de produits chimiques n'est sans doute pas un gage de bonne santé. Dans une étude récente menée dans les vergers de 12 pays d'Europe, l'organisation Greenpeace indique ainsi avoir découvert la trace de 53 pesticides différents 80% des pommes issues de l'agriculture conventionnelle contiendraient des résidus de pesticides, des produits présents dans les fruits mais aussi dans les sols, pour la plupart dangereux pour notre santé. Alors dans cette étude, l'Italie, la Belgique et la France sont les plus mauvais élèves. Y a-t-il vraiment lieu de s'alarmer? Quelles sont les alternatives? Barbara Schall est allée cueillir quelques éléments de réponse dans un verger de Belgique.
Ce que vous venez de goûter là, c'est quoi?
C'est une rubinette. En fait, elle s'appelle Ravzubin et le nom commercial c'est Rubinette. C'est notre produit phare ici à Gembloux et on les appelle même les bonbons de Gembloux. Elle est tellement sucrée et elle a une telle acidité derrière, c'est la préférée de tout le monde.
Paul Tenis est arboriculteur, il produit des pommes et des poires. Son exploitation se trouve à Gembloux, à une cinquantaine de kilomètres au sud-est de Bruxelles. Le cadre n'a rien de champêtre, l'exploitation de Paul Tenis s'est coincée entre la Nationale 4 et la ligne de chemin de fer. Quelques 30 000 plants et pas moins de 13 variétés de pommes.
La salsa, on a Pinova, Jonagold, Rubinette.
Donc pas uniquement les 4-5 variétés qu'on connaît bien et qu'on retrouve au supermarché.
Non, nous on cultive vraiment autre chose. On travaille sur le goût du fruit.
Autre terrain sur lequel Paul Tenis cherche à se différencier. Il veut pratiquer une culture la plus respectueuse possible de l'environnement, à l'opposé d'une agriculture conventionnelle. Une forme de culture d'ailleurs régulièrement dénoncée par Greenpeace. L'organisation a retrouvé de nombreuses traces de pesticides dans l'eau et les sols des vergers européens. Des insecticides comme le DDT, des fongicides ou des herbicides. Juliette Boulet, porte-parole de Greenpeace en Belgique.
Ça a un impact sur l'entièreté du cycle, en fait, de la biodiversité, parce qu'on retrouve des pesticides qui ont été pulvérisés il y a déjà 10 ans, eh bien on les retrouve aujourd'hui dans les sous-sols, dans les pluies. Une conséquence très pratique est l'appauvrissement des sols, ce qui induit une nécessité de pulvériser encore plus parce que les sols ne sont plus en capacité de se protéger contre les éventuels ennemis au développement des pommes en l'occurrence. Et donc on comprend bien que c'est un cercle vicieux que l'utilisation permanente des pesticides.
Voilà pour le sol et les eaux, mais qu'en est-il du fruit? Les pommes que nous mangeons sont-elles empoisonnées, dangereuses pour notre santé? Bruno Schiffer, c'est responsable du laboratoire de phytopharmacie à la faculté d'agronomie de Gembloux. Il se montre plutôt rassurant.
Je pense qu'il faut raison garder. Il y a une contamination générale, donc nous sommes tous exposés effectivement à des traces de ces produits, mais dans les produits que nous consommons, par exemple, il y a des contrôles réguliers qui montrent que les concentrations de ces traces que l'on trouve sont largement en dessous des normes qui sont autorisées pour ces produits.
Et ces normes, on peut leur faire confiance? Elles sont suffisamment strictes, suffisamment protectrices pour le consommateur?
Oui, en Europe, on a les normes qui sont les plus sévères par rapport aux autres régions du monde.
Mais Bruno Schiffers n'en est pas moins inquiet, car il reste des inconnus. Quels sont les effets combinés de ces différents pesticides? On en sait finalement très peu sur ces cocktails de produits. Et puis la contamination par les pesticides ne se limite pas à ce qui passe par notre estomac. La présence de ces substances dans notre environnement a bien évidemment des conséquences sur notre santé.
Quand vous vous promenez dans un environnement qui est contaminé, vous pouvez aussi être exposé à ces produits. Et puis il y a des problèmes de transfert des résidus. Par exemple, si vous avez des chiens ou des enfants qui jouent dehors sur un sol qui a été traité, c'était le cas avant dans les plaines de sport ou dans les espaces verts, ils vont ramener dans la maison sur leurs pattes ou sur leurs pieds des traces de ces résidus qu'on va retrouver sur les moquettes. Et si vous vous installez sur ces moquettes ou sur ces tapis, vous allez retrouver des traces de ces résidus. Donc c'est quand même aussi une pollution ambiante qui vient s'ajouter à l'exposition qu'on a à toute une série de contaminants chimiques.
Alzheimer, diabète de type 2 ou dérèglement hormonal, pour l'instant difficile d'établir un lien direct entre ces maladies et les pesticides. Mais les soupçons sont là, de plus en plus affirmés. Bruno Schiffer s'en est persuadé, il est urgent d'apprendre à limiter notre consommation de pesticides. Retournons dans le verger de Paul Tenis. Il pratique aujourd'hui ce que l'on appelle la lutte intégrée, travailler avec la nature. Par exemple, introduire des araignées prédatrices pour combattre d'autres acariens nuisibles.
C'est tout à fait autre chose, c'est beaucoup d'observations et beaucoup de réflexions aussi. Mais surtout des observations. Il faut savoir ce qui se passe dans ce verger.
L'arboriculteur est aussi en pleine reconversion. Dès l'an prochain, sa production sera entièrement bio. Mais pour lui, c'est l'ensemble de la profession qui a fait des progrès. Et de toute façon, il en est convaincu, bientôt tout le monde suivra cette voie. D'autant plus que bien pratiquée, l'agriculture biologique serait tout aussi rentable qu'une agriculture conventionnelle.
Forte affluence attendue dans les cimetières ce dimanche à l'occasion de la Toussaint. Chaque année, on se souvient et on honore ses morts. L'occasion d'évoquer un nouveau service funéraire au Royaume-Uni pour les enterrements. Rent a mourner, la location d'un proche. Version moderne et plus discrète des pleureuses, Marie Billon.
Plus il y a de personnes endeuillées, mieux c'est. C'est un baromètre de popularité un peu étrange, mais la famille du décédé sera toujours contente s'il y a beaucoup de monde pour venir rendre un dernier hommage au défunt. Mais parfois, justement, le compte n'y est pas, soit parce que le défunt venait juste de s'installer dans un nouvel endroit sans avoir eu le temps ni l'occasion de se faire de nouveaux amis, ou tout simplement parce qu'il n'était pas très populaire. Du coup, l'assistance autour de la tombe est clairsemée, or la dernière chose dont la famille a envie dans ces circonstances, c'est d'entendre les murmures des rares présents commentant la double tristesse de la situation sur le mode « ben il n'y a vraiment pas grand monde à cet enterrement ». C'est pour éviter ce genre de moment gênant qu'est née la société Rent a Mourner. Elle met à disposition de la famille du défunt des agents, c'est comme ça qu'elle les appelle, des endeuillés sur commande qui viendront gonfler les rangs aux veillées ou aux funérailles. On peut en engager un ou plusieurs pour un peu plus de 60 euros par heure et par agent. Et ils ne feront pas juste acte de présence, ce sont des acteurs, même si la plupart sont amateurs. Une fois engagés, ils se coordonnent avec la famille du défunt, ils s'inventent un passé, comment ils se sont rencontrés notamment, mais surtout ils doivent connaître le trépassé sur le bout des doigts, ses réussites et ses échecs, dit le site de la société. Le but est qu'ils soient si bien renseignés que les autres invités, les vrais, n'y voient que du feu. C'est pour ça que ce ne sont pas exactement des pleureurs, la tradition existe fortement dans les pays orientaux en particulier, mais ça ne collerait pas aux mœurs britanniques où les émotions sont plus retenues, et surtout ce n'est pas une coutume qui se développe beaucoup en Europe, louer un ou des endeuillés reste quelque chose dont personne ne se vante.
May I have your attention, please?
Music, rocking music.
You like music?
Music when you lose control.
Why don't you put a record on?
Bonjour Vincent Théval.
Bonjour Laurent.
Alors vous nous présentez aujourd'hui un titre qui fleure bon, le rock chevelu.
Et je vous propose une incartade dans le rock psychédélique suédois avec le nouvel album de Dungen, un groupe basé à Stockholm qui existe depuis plus d'une quinzaine d'années et s'avère être avant tout l'émanation du seul Gustav Eistes, un garçon dont l'adolescence dans les années 90 a surtout été marquée par le hip-hop. Et c'est en farfouillant dans l'histoire du rock, à la recherche de samples pour ses morceaux, que Gustav Eistes a découvert le vaste continent de la pop psychédélique des années 60 et 70, un paysage qu'il a investi avec Dungen. Sur scène, le projet s'incarne véritablement en un quatuor, mais sur disque, Gustav a longtemps tenu la plupart des instruments sur des chansons sophistiquées chantées en suédois.
Extrait du dernier album de Dungen, un rock psychédélique qui plaît beaucoup à notre réalisateur du jour, Boris Vichit. On se retrouve lundi sur les ondes à 12h41 et dès maintenant sur la page RFI d'Accent d'Europe.